17h au studio Kalungu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous dans cette grande édition d'information de ce vendredi 19 mars 2021 au micro Nafissa Dom Sirfou. Au sommaire, à France Média Monde, accusé par l'association des partis membres de l'opposition nigérienne en France de, je cite, diffusion de fausses informations sur le processus électoral au Niger. Une plainte a été déposée hier au tribunal judiciaire de Boigny à Paris. La loi 2015-036 adoptée par le Niger relative au trafic illicite des migrants comporte des insuffisances et d'énormes problèmes relatifs aux droits humains selon la CNDH. Un atelier ouvert ce matin à Niamey va tenter de corriger ces insuffisances. Un an après l'enregistrement du premier cas de la COVID-19 au Niger le 19 mars 2020, comment la société nigérienne perçoit-elle cette maladie? Réponse dans le magazine de ce jour. La marche de la coalition des partis membres de l'opposition nigérienne prévue se tenir ce samedi 20 mars a été interdite hier par les autorités de la ville de Niamey, rapporte un poste en ligne d'Actu Niger. Un risque de trouble à l'ordre public et de raisons d'urgence sanitaire sont les motifs avancés par les autorités pour interdire la marche, souligne la même source. L'association des partis membres de l'opposition nigérienne a déposé hier une plainte au tribunal judiciaire de Boigny à Paris contre France Média Monde regroupant RFI, France 24 et MCD pour, je cite, diffusion de fausses informations sur le processus électoral au Niger, selon Aboubakar Tchano Abdelkader, président de la coordination des partis politiques de l'opposition. Ces médias ont engagé une campagne de reconnaissance des résultats des élections avant la validation par la Cour constitutionnelle du Niger. Il est joint au téléphone par Tarnan Foudey Ahmed.
Dans son journal quotidien du 19h, dont c'est lui du 16 mars, la télévision France 24 a annoncé que suite aux attaques terroristes que notre pays venait de vivre dans la région de Tilaberi, le candidat Mohamed Bazoum a tenu un conseil de sécurité extraordinaire, tout en le qualifiant comme déjà président de la République du Niger, alors même que le processus électoral est toujours en cours dans notre pays et qu'on ne connaîtra le président réellement élu que lorsque la Cour constitutionnelle valide les résultats provisoires. Et sur la base de cette information que nous qualifions de campagne de reconnaissance de M. Bazoum Mohamed comme président élu, donc l'opposition nigérienne ne peut jamais admettre et laisser passer une telle posture du respect envers son pays et ses institutions. C'est ce qui nous a motivés à déposer cette plainte. Donc nous espérons en tout cas que le procureur saisi donnera suite favorable à notre requête pour que ces médias soient sanctionnés conformément au texte en vigueur en France sur la réglementation du journalisme.
Évaluation de la démocratie en Afrique, quelle avancée? C'est le thème de la première édition du Forum de la société civile africaine sur la démocratie en Afrique, débuté hier à Ouagadougou. Pour Al-Ghabit Mohamed Ider, ancien secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens qui prend part au Forum, il est important de faire la rétrospective de la démocratie sur le continent. Il est joint au téléphone par Mohamed Maman.
En Afrique, nous avons des pays qui étaient des références en matière de démocratie, mais qui basculent et qui inquiètent tout un peuple. Ici, je fais référence au Sénégal, je fais référence au Bénin, qui sont des exemples de démocratie en Afrique, mais qui aujourd'hui sont caractérisés par des turbulences qui risquent d'agenouiller ou d'obstruer la bonne respiration de cette démocratie. Pour dire qu'il y a un climat qui aujourd'hui encore est en train de booster en Afrique de l'Ouest, où vous avez au Burkina Faso, des élections ont été organisées, un président a passé dès le premier tour, mais nous avons eu une opposition politique qui a accepté les résultats. Mais je ne peux pas aussi ne pas parler du Niger, parce que notre pays, le Niger, est aussi aujourd'hui dans une phase de sa démocratie très décisive. Pour une première fois de l'histoire de notre pays, nous avons un chef de l'État qui a fait ses deux mandats et qui a accepté d'organiser des élections.
Je vous le disais dans les titres, la loi 2015-036 adoptée par le Niger relative au trafic illicite des migrants comporte des insuffisances et d'énormes problèmes relatifs aux droits humains. C'est ce qui ressort d'une étude menée par la Commission nationale des droits humains CNDH sur les conséquences de cette loi présentée ce matin à Niamey. Brahma Madou Ali, commissaire aux droits humains à la CNDH, explique.
Cette loi de 2015 sur le trafic illicite de migrants, surtout dans une partie de notre pays, Agadez, il y a eu beaucoup de soulèvements par rapport à cette loi. Et nous avons été interpellés par rapport à cette question, conformément à notre mandat de protection et de promotion des droits humains sur l'ensemble du territoire, y compris les migrants. Il est une obligation pour la Commission nationale des droits humains de se pencher sur cette question-là. Et la présentation de cette étude, vous avez suivi avec nous qu'il y a des insuffisances, même au niveau de la définition qui pourrait être auteur de cette infraction de trafic illicite de migrants, que les étrangers ou y compris les nationaux, la compétence des juridictions qui étend souvent cette infraction à la compétence du pôle judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, c'est qui est fondamentalement un problème et qu'il faut nécessairement corriger et qui feront très prochainement l'objet de recommandations de la part de la CNDH à l'endroit du gouvernement et des parlementaires.
L'actualité en région, à Dogondaji, un village de la commune rurale de Bana, dans le département de Gaya, l'école primaire manque d'infrastructures et de personnel enseignant. Créée depuis 2001, elle compte 72 élèves répartis dans deux classes, à savoir le CE1 et le CM2. Les détails avec Manou Saleh, directeur de l'école, qui lance un cri de cœur pour doter l'école des moyens. Il est au micro de Fadel Alou.
Les gens n'ont pas du tout l'esprit mûr pour comprendre l'importance de l'éducation. Ils ne suivent pas les enfants, mais ils inscrivent l'effectif de l'établissement. 72 élèves, deux classes avec deux enseignants. Mais le second là, c'est la communauté qui l'a pris en charge. J'étais seul ici. Ils ont dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Ils ont dit de prendre un enseignant. Et ils vont prendre ça en charge. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il y a vraiment le manque de matériel, les guides, certains documents manuels comme les livres. Même les tables basses là, ici dans cette classe, il n'y a même pas des assiettes. Ils sont assis sur des sacs, des notes comme ça. Ici, nous avons le CE1 et le CM2. C'est par manque d'enseignants qu'on a ces deux niveaux-là. C'est ici 45 élèves qu'on a pu recruter cette année. Mais comme vous le constatez, par manque d'enseignants, on les a abandonnés.
Mardi dernier, plusieurs jeunes de Mayayi, région de Maradi, ont reçu des kits après une série de trois formations. Ces kits sont composés de machines de couture et de matériel de réparation d'électricité, dont du FOFPA. Ibra Patrick, président des artistes de Mayayi, explique le sens de la cérémonie au micro de Issoufou Cheibou.
FAPKA a formé des jeunes suivant trois phases. C'est à la fin de la troisième phase que ces jeunes qui ont reçu la formation en couture et en électricité ont été dotés en kit. Ils sont scindés en groupe de 5 personnes et ils ont eu tout le nécessaire. Ils travailleront pendant 2 années durant lesquelles ils seront suivis par nous-mêmes et par la mairie. Nous voulons qu'ils travaillent vraiment afin de lutter contre le chômage. Nous espérons aussi que ces jeunes vont prendre en compte les conseils que nous leur avons prodigués avec la mairie.
Restons toujours en région pour parler des travaux de réhabilitation du pont Teloa qui relie la ville d'Agadez et celle d'Arlita débutant le 1er avril 2020. Ils sont à un taux d'exécution de 54%. Des dispositions ont été prises par les services techniques pour le passage des usagers, même en saison des pluies qui approche, explique Aboubakar Bourema, directeur régional de l'équipement d'Agadez, au micro de Moussa Maman.
Le taux d'exécution à la date où nous sommes, elle est de 54% pour un délai consommé de 82, c'est-à-dire 11 mois et demi ont été consommés sur les 14, mais quand même vraiment le gros du travail est fait. L'ouvrage est déjà dehors, donc la partie fondation qu'on appelle l'infrastructure est déjà réalisée. Donc tout ce qui reste, c'est-à-dire c'est le tablier, c'est-à-dire la partie supérieure où les véhicules vont circuler. Et là, la majorité, c'est-à-dire des équipements, ils sont fabriqués à partir de la Chine et normalement on attend l'acheminement de ces équipements et d'ici la fin de mars. Et là, ça serait vraiment très rapide parce que c'est de l'assemblage, ça va aller vite. Donc même s'il pleut, vraiment, ce n'est pas un problème. Déjà, des dispositions ont été prises pour qu'il y ait un aménagement des berges. Quand même, il y a une déviation qui est là pour que même en cas de pluie, les camions puissent traverser.
Sport, football, plusieurs clubs européens annoncent qu'ils ne laisseront pas leurs joueurs africains rejoindre leur équipe nationale pour les derniers matchs de qualification des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2022. Une décision prise par la Fédération internationale de football, la FIFA, en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Quel sera donc l'impact pour les équipes africaines et le Niger en particulier? Mohamed Silimane, secrétaire général de la Fédération nigérienne de football, répond au téléphone de Salam Amadou Kadri.
Le grand principe, c'est que quand il y a des matchs internationaux, les joueurs comme les clubs ont l'obligation de répondre à l'appel de leur sélection nationale. Avec la pandémie du Covid-19, la FIFA donc a autorisé les clubs, s'ils le désirent, à ne pas libérer les joueurs. Parce que, en fait, il y a des pays où les restrictions sont très sévères pour les voyages. Et la Ligue et la Fédération française ont entériné cette décision, ce qui cause beaucoup de tracas. Donc, il y a beaucoup de joueurs de grands talents, des vedettes, qui ne peuvent pas honorer ces matchs éliminatoires de la CAN les 5e et 6e journées, c'est-à-dire le 26 mars et le 30 mars. Donc, nous, on a été impactés avec 3 joueurs qui sont en France, qui font de ne recevoir de leur club. Donc, voilà un peu la situation. D'autres sélections sont grandement impactées. Je parle du Sénégal, je parle de l'Algérie, Côte d'Ivoire, etc.
À présent, le magazine de ce journal, le premier cas de la COVID-19 au Niger a été signalé le 19 mars 2020. Un an après, quelle compréhension la société nigérienne a de la pandémie? Elhaj Dagobi Abdoua, enseignant chercheur au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université de Niamey, aussi membre du groupe d'experts de lutte contre la pandémie au Niger, livre son analyse de la situation. Il est interrogé par Talat Abdou Bahar.
Quelle perception a eu la société nigérienne de la maladie de la COVID-19 à son apparition il y a un an?
Quand elle est apparue en mars 2020, disons dans la façon dont la pandémie a été médiatisée, elle a été très clairement perçue par les uns et les autres comme une maladie grave. Et peut-être l'une des plus graves que l'humanité ait connue. Elle a été présentée comme une maladie sans traitement. Si on en est victime, elle pourrait s'avérer mortelle. La deuxième perception est liée évidemment à la gravité de cette maladie, c'est qu'on peut la contracter au contact des flux corporels d'une personne infectée. Si une personne infectée vous approche, et rien que par la proximité, elle peut vous contaminer en particulier. Donc, du coup, les contacts interhumains sont devenus fondamentalement une source de contagion. Cette proximité-là est fondamentalement plus contagieuse que toutes les autres maladies.
Quelle a été la compréhension populaire de la pandémie?
Dans les représentations populaires, comment les gens comprennent, certains estiment par exemple que c'est une maladie qui existait toujours, qui a toujours été connue sous la forme de rhumes saisonniers. Et d'autres ont estimé que, au fond, c'est vraiment une imagination, c'est vraiment un canular. Et beaucoup ne croyaient pas vraiment à l'existence de cette maladie. Et beaucoup ont aussi estimé que, c'est une maladie business pour le gouvernement. Il veut faire des chiffres et pour obtenir de l'aide extérieure. Donc, l'idée que finalement ce n'est pas une maladie en soi, mais c'est beaucoup plus un complot de l'Occident contre nos pays.
Aujourd'hui, quelle évolution dans cette perception, dans cette compréhension?
La pandémie a fait bien évidemment son chemin. Du coup, change la représentation de cette maladie. Cette dramatisation autour de la maladie a été quelque peu dépassée. Et on en est venu à l'idée d'une maladie parfaitement guérissable. Aujourd'hui, avec la découverte du vaccin, on estime que l'humanité est en train de voir le bout du tunnel.
Vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre attention. À suivre à partir de 18h15 le forum de la presse avec Mokhtar Hamadou et nos confrères des médias de Niamey pour le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève.
Salut Fanta, une très bonne nouvelle pour toi.
Ouais, raconte, je t'écoute.
Plus de soucis pour écouter les émissions de Studio Kalangou.
Sois clair, Rabi, je veux comprendre.
Il suffit juste de composer le 325 sur ton téléphone pour suivre les émissions de Kalangou. Et ce n'est pas tout. Tu peux également écouter des messages sur la santé et la météo.
Quoi? Et partout au Niger?
Et oui, en plus, l'appel sur le 325 est gratuit. Il faut juste disposer d'une puce RTL.
Oh, merci infiniment.
Le 3, 2, 5 pour suivre les programmes de Studio Kalangou au rythme du Niger.